Donc ce matin, on va débuter ensemble une nouvelle série. On vient de terminer notre série ensemble et on vous avait annoncé que c'était la thématique de l'année. On veut regarder comment on peut vivre l'Église ensemble dans plus intentionnellement dans la prochaine année. Et cette semaine, on débute une nouvelle série qui s'appelle « Les paroles troublantes de Jésus ». Il y a certainement des passages dans la Bible, des passages bibliques, qui sont difficiles à comprendre. Peut-être même que parfois tu vas lire ta Bible, puis il y a des passages que tu vas trouver durs. Peut-être difficiles à comprendre, mais aussi difficiles à accepter. Pourquoi est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu me demande? Puis dans notre nouvelle série, Les paroles troublantes de Jésus, on veut prendre le temps de s'arrêter sur quelques-unes des paroles que Jésus a pu dire dans son temps, qui faisait certainement pas l'unanimité, mais encore quand on les lit aujourd'hui, parfois ça semble peut-être un peu bizarre ou un peu difficile à comprendre ou encore même difficile à accepter. On veut regarder ensemble pourquoi est-ce que ces paroles-là nous troublent? Pourquoi est-ce qu'elles sont difficiles? Est-ce qu'on les comprend bien? Est-ce que ça se peut qu'elles sont difficiles à accepter? On se pose tous des questions sur des passages difficiles ou des choses qu'on entend, des choses que Dieu nous demande dans sa parole ou peut-être des choses qu'on entend à l'Église. Mais on veut en adresser quelques-unes ensemble dans cette prochaine série-là. Parce que à l'Église Le Sentier, on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne la vérité. C'est Dieu qui nous instruit sur... Il nous enseigne sur lui, premièrement, sur ce qu'il a fait pour nous et sur comment il veut qu'on vive à la lumière de ces vérités-là. Donc, on croit que cette parole, c'est la vérité et elle mérite qu'on s'y attarde. On veut examiner la Bible avec foi, une foi informée qui a le droit de se poser des questions, puis on peut accepter qu'on ne peut pas tout comprendre. Et par la grâce de Dieu, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Parce que quand on étudie la Bible, en fait, on a cette bénédiction de pouvoir étudier la Bible ensemble, en Église. S'arrêter sur des passages difficiles et demander à d'autres personnes ou les étudier ensemble en assemblée ou dans nos groupes en mission. On peut se poser ces questions-là et c'est ce qu'on veut voir ensemble. Mais certainement, on veut voir qu'il y a des réponses qui sont satisfaisantes, mais plus que satisfaisantes, qui sont réconfortantes, qui donnent la joie et qui donnent de l'assurance. Et c'est ce qu'on veut pouvoir faire ensemble ce matin. Et ce matin, on va justement aller voir un texte où Jésus va avoir une conversation avec la foule. Et on va regarder ensemble pour le moment la fin de cette conversation-là dans Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6, et je vais lire les versets 60 à 66. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit : Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Donc ce matin, on va regarder cette conversation que Jésus vient d'avoir avec la foule. Plusieurs de ses disciples, c'est-à-dire des gens qui le suivaient partout où il allait, il entendait son enseignement, il était instruit par lui, il le voyait faire des miracles. C'est des gens qui marchaient avec Jésus dans son ministère. Et là, Jésus vient d'avoir une longue discussion avec la foule, avec certains de ses disciples-là. Et puis, il le questionnait. Il le questionnait sur ce qu'il faisait. Puis plusieurs des gens qui étaient là n'aimaient pas ce qu'ils entendaient. Ils trouvaient que les paroles de Jésus étaient dures, étaient plutôt troublantes. Et pas parce que c'était difficile à comprendre. On voit qu'ils comprennent effectivement ce que Jésus est en train de leur dire. On va voir ça ensemble ce matin. Mais ils avaient de la difficulté à croire, à accepter ce que Jésus essayait de leur dire. On va voir ce matin que Jésus est assez clair sur ce qu'il fait. Et il va même donner des preuves à l'appui. Il va leur dire qui il est, il va leur dire qu'est-ce qu'il est venu faire, puis il va même leur pointer vers des preuves qu'il va leur donner. Mais la foule, plusieurs d'entre eux vont finir par le quitter, par s'éloigner de lui, parce que tout d'un coup, ça devenait trop difficile à entendre. Qu'est-ce qui a bien pu les troubler à ce point? Eh bien, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 22, la foule trouve pas Jésus. Ils se demandent où est-ce qu'il est passé. Et puis, ils se mettent à le chercher. Et puis là, ils décident d'aller de l'autre côté du lac parce qu'ils ont vu qu'il y avait des barques qui étaient partis. Les disciples étaient partis là-bas. Ils comprenaient pas trop. Jésus était avec eux. Il était pas avec eux. Mais ils le cherchaient. Ils voulaient voir Jésus. Donc, ils ont décidé de prendre des barques. Ils sont allés de l'autre côté du lac. Ils ont retrouvé Jésus dans la ville de Capernaum. Et puis, ce qu'on va voir, c'est que les gens sont pas mal intéressés à ce moment-là à retrouver Jésus. Ils veulent être avec lui. La veille, Jésus venait de faire un miracle, le miracle de la multiplication des pains. Jésus, à partir de presque rien, quelques pains, quelques poissons, venait de nourrir une foule qui avait environ 20 000 personnes. Le texte nous dit plus de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus va nourrir avec presque rien 20 000 personnes. Et l'Évangile de Jean nous dit que les miracles de Jésus servent à démontrer qui est Jésus. Que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, le Sauveur du monde. Effectivement, dans Jean 20, 30, à la fin de l'Évangile, on peut lire « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin... » Pourquoi, dans le fond, pourquoi vous avez vu ces miracles-là? Pourquoi ils ont été écrits dans le livre? Afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, les miracles de Jésus sont révélateurs de qui Jésus est. La multiplication des pains, c'est un miracle de création. Jésus crée plein de pains à partir de rien. C'est pas comme les gens ne pouvaient pas se dire « Hey, il y a sûrement un truc dans ce qu'on vient de voir, dans ce qui vient de se passer. » Non, c'était clair que Jésus venait d'opérer un miracle qui était en réalité impossible. C'est impossible de créer quelque chose à partir de rien. C'est pas un truc qu'on peut faire, c'est pas une formule qu'on peut dire. Jésus a créé de la nourriture à partir de rien. Il n'y a pas beaucoup de façons d'expliquer ce miracle-là autrement que de dire que Jésus venait de faire l'impossible. À moins que tu sois capable de créer à partir de rien. Qu'est-ce que ça l'annonce sur la personne de Jésus? Jésus est en train d'annoncer à la foule, à tous ceux qui sont là, « Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui peut faire à partir de rien, qui peut faire vivre, qui peut donner la vie, qui peut donner des choses, qui peut créer des choses à partir de rien. » Donc, par la multiplication des pains, Jésus leur a enseigné que comme le pain que je vous ai donné quand vous avez faim, lors de la multiplication des pains, mais là, il est en train de leur dire, puis il commence cette discussion-là avec eux. Maintenant, sachez que je peux vous donner un pain qui va vous permettre d'avoir la vie éternelle. Un pain où vous allez plus jamais avoir faim. Mais Jésus va leur dire, vous me cherchez parce que vous avez faim. On lit au verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Donc, Jésus est en train de reprendre la foule ici. Parce qu'il est en train de leur dire, vous me cherchez non pas parce que vous vous intéressez à moi, mais parce que vous avez reçu une bénédiction puis vous en voulez encore. Vous êtes intéressé par la bénédiction, mais pas par celui qui donne la bénédiction. On pourrait se demander, mais est-ce que c'est mal de recevoir une bénédiction? Est-ce que c'est mal de recevoir quelque chose de bien du Seigneur? Est-ce que c'est mal de demander à Dieu la santé quand je suis malade? Ou encore de lui demander de l'aide quand ça va pas, quand je vis une situation extrêmement difficile? Absolument pas. Jésus les reprend pas parce qu'il leur a donné du pain, parce qu'il leur a fait du bien. C'est lui qui leur a donné ça. C'est lui qui, dans toute sa bonté, qui a vu la foule qui avait faim, puis il les a nourris par amour pour eux. Mais ce que ce miracle-là servait entre autres à faire et ce que ça aurait dû produire dans leur cœur, c'est de se poser la question, mais c'est qui cette personne-là qui est capable de créer de la nourriture à partir de rien? Et là, Jésus veut les enseigner sur, mais qui il est? Donc, Jésus les reprend pas parce qu'ils veulent être bénis par Dieu, mais parce qu'ils sont pas vraiment intéressés à la personne qui donne la bénédiction. On va continuer à lire au verset 27. Jésus va leur dire maintenant, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Et lui dire, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et là, ils vont leur poser une drôle de question. Rappelez-vous, il vient de faire la multiplication des pains. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et c'est vraiment intéressant parce que la conversation va nous démontrer qu'encore une fois, ils sont en train de demander à Jésus, mais donne-nous un pain qui va nous bénir pour toujours, qui va nous enlever la faim, qui va nous enlever de nos soucis. Mais ils ne se soucient pas plus de qui est Jésus. Ils comprennent encore que Jésus va leur donner une bénédiction physique qui va les rassasier, une bénédiction spirituelle, une bénédiction sur le moment, maintenant. Ils sont comme en train de dire, bénis-nous Seigneur, on est prêt à recevoir ton abondance. Mais là, Jésus va leur donner la réponse. Il va leur dire de quel pain il s'agit. Il ne pourra pas être plus clair que ça. Il va leur dire, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus est en train de leur expliquer le miracle de la veille. Si je suis capable de créer de la nourriture à partir de rien, eh bien, sachez que je suis capable de vous donner la vie éternelle. À partir de ce moment-là, dans le discours, Jésus va parler une bonne dizaine de fois que ce qu'il veut faire avec eux, c'est de leur donner la vie, que tous ceux qui vont croire en lui vont avoir la vie éternelle. ceux qui vont croire en son nom, ceux qui vont croire dans ce qu'il va faire, il va leur donner la vie, une vie abondante. Il va les bénir bien plus abondamment que le pain qu'ils demandent. Mais pour la plupart d'entre eux avec qui Jésus s'entretient, ça n'a plus de sens. Là, ils ne sont plus en train de voir le miracle ou la bénédiction que Jésus a fait. Le texte va même nous dire que là, ils disent, OK, lui vient de dire que c'est le pain de vie, c'est le pain qui donne la vie. Pourtant, c'est juste Jésus, le fils du charpentier, un gars qu'on connaît, le bien ordinaire. Il n'a pas le droit de dire ça, lui, qu'il donne la vie. Il ne serait pas capable de faire ça. Il faut comprendre que c'est scandaleux, surtout pour les Juifs qui sont comme, il y a quelqu'un ici qui est un être humain qui se prend pour Dieu. Donc, ils comprennent dans ce sens-là que Jésus est en train de se faire Dieu. Puis, ils sont scandalisés. C'est comme si, tant qu'il nous donne ce qu'on veut, tant qu'il nous dit ce qu'on veut entendre, on va l'accepter. Mais là, c'est trop. Ils ne peuvent plus l'accepter. Et j'aimerais ça qu'on puisse se poser cette question-là ce matin. Une question simple, mais une question vraiment importante pour chacun d'entre nous. Une question qu'on a besoin de se poser régulièrement. C'est pas comme une question qu'on va répondre une fois, puis ensuite on met ça sur les tablettes, puis c'est terminé. Non, une question qu'on a besoin de se poser régulièrement. Est-ce que Jésus est assez? Est-ce que Jésus est assez? Est-ce que Jésus est suffisant pour toi ce matin? Prends le temps d'y penser 2 minutes. Si tout ce que tu avais dans le monde présentement, tout ce que tu avais, tu n'avais rien d'autre, tout ce que tu avais présentement dans le monde, c'est Jésus. Est-ce que ça serait suffisant pour toi? Est-ce que tu serais content avec ça? Si tu perdais la santé, si tu perdais ton emploi de rêve sur lequel tu travailles depuis des années, si tu vivais une situation tragique et tu perds quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup, si tu vis une grosse malchance dans ta vie présentement puis que tu perdais beaucoup d'argent d'un coup, est-ce que Jésus est assez? Est-ce que pour toi, le fait que Jésus dit ce matin, dans Jean 6, « Je suis le pain de vie. Je suis celui qui donne la vie. » Une vie plus abondante que toutes les bénédictions que tu pourrais avoir. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, il n'y a rien de mal à recevoir des bénédictions de Dieu. Dieu, c'est un bon Père qui veut nous faire du bien, qui veut nous donner. Il veut prendre soin de nous. Il prend soin de nous. Mais ce qu'il veut aussi, c'est être la première place dans nos vies. Il veut qu'on puisse reconnaître que c'est lui qui nous donne la vie. Et ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que quand tu reconnais que je suis plus précieux que toutes les bénédictions que tu peux avoir, tu vas être béni outre mesure, plus que tu aurais pu jamais être béni dans ta vie. Est-ce que Jésus est assez? La question est vraiment importante pour chacun d'entre nous. Parce que si la foule dans cette histoire n'arrive pas à désirer Jésus plus que le pain qu'il donne, ce que Jésus nous dit est important. Il nous dit que ce qu'il lui nous donne est immensément meilleur que le pain physique, que la bénédiction. Ce qu'il a à nous donner, c'est lui. Ce qu'il a à nous donner, c'est la vie éternelle avec lui. Ce qu'il a à nous donner, c'est une paix qui dépasse nos circonstances, une joie qui va plus loin que nos tristesses. Il nous donne une paix qui va nous permettre, même dans les moments difficiles, même dans les moments tragiques, de dire, Jésus, je t'ai et je goûte que tu es assez, que tu es suffisant pour moi. Parce que c'est toi qui me donnes la vie. La vie maintenant sur cette terre, une vie remplie de d'une connaissance, d'une réalité différente, de savoir que Dieu est avec moi malgré tout, que Dieu est avec moi quand ça va bien et quand ça va mal. Dieu est avec moi. Dieu est là. Et il me donne la vie. Mais il nous dit aussi, quand il nous promet la vie, il nous dit aussi, la vie que tu vis présentement, c'est une infime partie de la vie éternelle que tu vas vivre. Pas pour qu'on soit là puis qu'on dise, OK, ben, c'est correct d'abord. J'aimerais pas ma vie sur terre, mais au moins ça va durer un petit bout puis après ça, je vais aimer ma vie au ciel pour toujours. Non. Dieu nous permet de voir l'ensemble de notre vie puis de constater qu'on est là à apprendre à le connaître, à apprendre à l'aimer, à apprendre à le servir malgré les circonstances avec cette espérance puis cette attente qu'un jour on va être libéré de tout mal, toute détresse et on va être infiniment béni à apprendre à le connaître pour toute l'éternité. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. La question est importante à se poser parce que quand l'épreuve frappe, quand l'épreuve frappe à nos portes, on va se la poser. Quand les moments difficiles arrivent, on se pose cette question, peut-être sous différentes formes, mais on se pose ces questions. Jésus, est-ce que tu es assez? Jésus, est-ce que tu es assez fort pour me sortir de ça? Jésus, est-ce que tu es assez important pour que je laisse tomber cette chose-là? Jésus, est-ce que tu es assez aimant malgré que je vis des choses si difficiles? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es puissant? Est-ce que tu es assez? Quand l'épreuve frappe, on se pose constamment ce genre de questions-là. Puis à ce moment-là, ça se peut que pour nous, les paroles de Jésus soient difficiles, soient troublantes, soient dures, parce que c'est pas ce qu'on est prêt à entendre. Mais pourtant, Jésus nous promet que ces paroles, et au verset 63, je l'ai lu tantôt, mais à la fin, encore une fois, du discours, il va dire, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alors, quand on est enfant de Dieu, quand on appartient à Jésus, quand Dieu est notre sauveur, toutes ces paroles qui nous disent dans notre cœur, dans notre tête, que Dieu est pas assez, c'est des mensonges. C'est des mensonges qu'on se dit ou qu'on entend. Parce que la vérité, c'est qu'en Jésus, Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne ce qu'on a besoin pour persévérer. Dieu nous donne même, dans les moments les plus difficiles, cette capacité-là de juste savoir qui est là. Dieu nous donne le droit de le questionner. Dieu nous donne le droit de pas comprendre. Mais Dieu est là. Et il nous rappelle, d'une manière ou d'une autre, c'est assez. Pour moi, dans ma vie, ça a été à un moment donné, je me questionnais, je me posais ce genre de questions-là. Est-ce que tu es bon, Dieu? Est-ce que tu es assez? Et je me souviendrai toujours la fois où j'étais dans un rassemblement, comme ce matin, c'était pas un dimanche matin, c'était dans un camp, un rassemblement comme ça. Et moi, j'avais le cœur lourd. J'avais pas envie de chanter. J'avais pas même envie, et là, c'est peut-être pas la chose winner à dire quand t'es un pasteur, j'avais pas le goût d'être là ce matin-là dans l'église. J'avais le cœur lourd. Et à un moment donné, les gens chantaient. J'écoutais les paroles. Puis c'est venu de nulle part toucher mon cœur. Puis le chant qui jouait était là, comme devenait comme une prière. Puis c'est moi qui parlais à Dieu. Mais c'est comme si quelqu'un le faisait à ma place parce que j'avais pas les forces. Je chantais juste, je lisais les paroles du chant et je donnais ça à Dieu. C'est venu toucher mon cœur. Et à ce moment-là, alors que j'entendais les gens chanter, alors que j'entendais les gens adorer Dieu, j'ai eu cette paix-là dans mon cœur, dans un moment difficile, dans un moment troublant où les paroles de Jésus sont venues me dire, je suis là, je suis assez. Je suis avec toi. Et ça, c'était les vérités de sa parole. Les paroles de Jésus, parfois, sont troublantes parce qu'elles ne sont pas ce qu'on veut entendre. Mais ce qu'on voit ici, ce que Jésus est en train de faire, tout au long de cette conversation, le chapitre a 70 versets et plus, donc on ne pourra pas tout le lire ce matin, mais je vous invite à aller le lire à la maison. On voit que Jésus n'est pas dur. Les gens disent que tes paroles sont dures, mais Jésus passe son temps à simplement leur dire à quel point il est la vie. Il est celui qui donne la vie et je veux que vous ayez la vie. Et quand on lit le chapitre, on a cette impression-là que c'est comme Jésus dit quelque chose puis les gens deviennent de plus en plus fermés, de plus en plus pas intéressés à cheminer avec lui jusqu'au moment où ils vont partir. On aurait l'impression, on se dit, coudonc, Jésus, t'aurais pas pu leur dire quelque chose de plus doux, différent, t'aurais pas pu leur donner, je sais pas, un autre miracle de pain pour qu'ils se rappellent que tu l'as fait la veille. Mais Jésus leur dit simplement la vérité, une vérité qui peut transformer leur vie toute entière. Et puis, ils refusent de croire en lui. Parce que c'était pas les paroles qu'ils voulaient entendre. Et puis, mais comment est-ce qu'on peut être certain que Jésus est assez? Comment peut-on être certain que Jésus est suffisant pour nous dans nos vies? On va continuer à regarder ensemble qu'est-ce que Jésus va dire à la foule. Parce qu'à ce point-ci, la foule est troublée. On voit qu'ils murmurent entre eux, sont scandalisés. Et là, Jésus les entend. Il sait là, qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de leur dire. Et Jésus il a dit « Je suis le pain de vie », puis là, il va pousser son analogie du pain un peu plus loin, avec ce qu'on va entendre, une autre parole troublante de Jésus. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père est vivant, qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais les premiers chrétiens ont été accusés de cannibalisme. Les gens entendaient les chrétiens dire qu'ils mangeaient le corps, qu'ils buvaient le sang. Puis on se disait que dans cette nouvelle secte-là, les gens mangent du monde. Mais ça, c'est de la faute à Jésus. Mais ce qui est quand même intéressant, et ici, vous voyez comme c'est Jésus qui se présente comme étant celui, encore une fois, c'est dans cette analogie qu'il est en train d'expliquer, où il dit « c'est moi qui ai la vie, c'est moi qui donne la vie ». Encore avec le fait que vous avez mangé du pain, vous aviez plus faim, mais si vous me mangez, vous allez plus avoir jamais faim, vous allez toujours vivre. Et Jésus est en train de parler ici de ce qui va se passer jusqu'à aujourd'hui quand les gens vont manger le pain et boire de la coupe, du pain puis du jus de raisin pour ceux qui sont ici pour la première fois ce matin. C'était donc les chrétiens qui mangent ensemble le repas du Seigneur en souvenir de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a donné la vie. Donc, si on revient à la foule, bien qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce que Jésus est en train de dire, ils semblent comprendre que Jésus leur dit ça parce que Jésus est en train de leur dire « c'est moi qui donne la vie ». Ils comprennent ce fait-là. Ils comprennent assez cette analogie pour comprendre que Jésus est celui qui prétend donner la vie. Et ce qui est troublant pour eux, c'est pas, la foule n'est pas en train de se demander en ce moment, est-ce que Jésus est en train de nous encourager à devenir des cannibales? Ils comprennent pas trop ce que Jésus ce que Jésus dit exactement. Ils acceptent certainement pas ce qu'il dit. Mais ce qu'ils comprennent, c'est que par cette image-là, Jésus est en train de dire, c'est moi qui donne la vie. Et c'est ça qui les trouble. Donc, les paroles de Jésus sont troublantes parce qu'elles sont pas toujours ce qu'on veut entendre, mais aussi, et ici, c'est ce qui se passe dans ce passage, parce qu'elle nous dicte les bases de la foi authentique. Elle nous dit ce qu'on doit croire. Les paroles de Jésus nous dit qu'est-ce que la vérité? Qui est-ce qui peut réellement donner la vie? Qui est-ce qui peut vraiment sauver notre vie? En qui est-ce qu'on a besoin de mettre toute notre confiance? Et c'est ça qui trouble les gens qui l'entendent. Jusqu'à ce miracle, les gens se disaient « Ouais, Jésus, il fait quelque chose de vraiment bien, mais là, il nous dit qu'il faut qu'on croie en lui. » Donc là, il est comme en train de redéfinir la foi pour eux. Il est en train de leur dire que c'est lui le Messie. Mais eux n'arrivent pas à y croire. Et Jésus va leur dire, même au verset 62, « Cela vous scandalise que j'ai dit qu'il faut vous manger mon corps et boire mon sang. Mais si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, vous saurez que ce que Jésus est en train de leur dire, si vous saviez d'où je viens, vous saurez que j'ai le droit et que j'ai le pouvoir de dire ce que je suis en train de dire en ce moment. » Donc, Jésus est en train de dire, de déclarer que ses paroles sont troublantes parce qu'on a du mal à croire, parce qu'on est, quand on est incapable de croire qui il est et ce qu'il fait, ses paroles sont trop dures. Mais si tu savais qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui règne depuis toujours, qui était élevé à la plus haute place avec Dieu, qui règne dans le ciel depuis toute l'éternité, qui est le roi des rois, qui est capable de créer, de donner la vie, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a tout fait, ça serait pas étonnant pour toi que je te dise que je donne la vie éternelle. Mais, donc, les paroles de Jésus sont dures à croire à cause sont troublantes, pardon, puisqu'on a de la difficulté à croire qui il est, ce qu'il a fait. Croire en Jésus, c'est de dire oui au fait que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vérité qui donne la vie. » Donc, comment savoir que Jésus est assez? Comment croire qu'il est vraiment celui qui donne la vie pour toujours? Une vie qui me donne de la paix dans les circonstances difficiles. Comment croire que dans les moments difficiles de ma vie, je peux dire « Oui, Jésus, tu es assez. » Comment avoir la certitude dans notre cœur que ce que Jésus dit, c'est vrai? Eh bien, parce que Jésus a été élevé à nouveau. Parce que Jésus nous a montré qu'il règne avec puissance. Non seulement on voit dans l'évangile de Jean tous les miracles, comme on voit ici le miracle de la multiplication des pains, pardon, et plein d'autres miracles, guérisons que Jésus va faire dans les évangiles. Mais Jésus va nous montrer qu'il règne avec puissance alors qu'il va être élevé à nouveau. Mais son élévation va passer par la croix. Et à la croix, Jésus va mourir. Et si Jésus meurt et que tout s'arrête là, c'est fini, on ferme les livres, on n'est pas ici ensemble ce matin. Mais à la croix, Jésus va mourir. Une mort qu'il ne méritait pas. Jésus a vécu une vie parfaite sans jamais désobéir à son Père, sans jamais se détourner des paroles que Dieu lui avait données. Il a obéi en toutes choses à Dieu. Son Père était toujours assez pour lui. Dieu était toujours assez pour Jésus. Mais Jésus a accepté de venir prendre notre place à la croix. Oui, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous méritons par nos fautes, par notre désobéissance à Dieu, par le fait qu'on était séparés de Dieu, c'est la mort. Jésus a accepté de venir prendre à notre place à la croix, la mort qu'on méritait. Parce qu'il nous avait promis dans Jean 6 et bien ailleurs, la vie. Jésus a pris notre mort et il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie parfaite pour qu'on puisse vivre avec lui pour toujours. C'est ça que Jésus est allé accomplir à la croix. Nous donner la vie éternelle. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Jésus a démontré sa puissance en tuant la mort, en défaisant l'ennemi numéro un du péché. La conclusion du péché qui était la mort pour tous, Jésus est allé vaincre la mort pour qu'on puisse avoir la vie pour toujours. Pour qu'on puisse avoir cette assurance qu'il règne et que ses paroles ne sont pas dures, mais qu'elles sont vie et qu'elles donnent la vie. Je vais demander à l'équipe de louange de se joindre à moi. Donc, la bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, ce matin, c'est que quand on est troublé par une parole de Jésus, qu'on est troublé par ce qu'on vit dans nos vies présentement, quand on lutte avec ce qu'il nous demande, que ce soit parce qu'on lutte avec l'obéissance ou parce qu'on a du mal à croire à une de ses paroles, on peut toujours se tourner vers lui. On peut toujours se tourner vers Jésus et avoir la confiance qu'il est celui qui donne la vie. Jésus nous donne plus que ce qu'on demande. Il nous rappelle qu'on a la vie en lui. Jésus nous réconforte par ses paroles et par sa présence dans nos vies. Et il nous appelle à déclarer jour après jour qu'il est assez, qu'il est celui qui donne la vie. Il nous appelle à déclarer, à croire en lui. Mais rappelons-nous que dans tous nos questionnements et nos incertitudes et notre incompréhension, on peut se tourner vers lui. Parce que c'est ses paroles qui ont ce véritable pouvoir de nous donner la vie. On n'est pas seul, frères et sœurs, dans nos questionnements. On n'est pas seul dans nos luttes. Dieu est avec nous et Dieu nous donne son Église pour qu'on puisse cheminer ensemble et déclarer que Jésus est notre roi et qu'il est assez. Prions ensemble. Merci Jésus pour ta bonté dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Et je te prie ce matin que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses toucher les âmes qui sont troublées en ce moment, que tu puisses toucher ceux qui vivent des moments difficiles et leur rappeler qui tu es. Si c'est quelqu'un qui est ici pour la première fois ce matin et qui entend ce message, que tu es celui qui donne la vie, qui est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés, pour nous donner cette nouvelle vie avec toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher cette personne ce matin, que tu puisses donner la vie. Merci parce que tu es avec nous. Et on te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous encourager tout au long de cette semaine. Et que dans tout ce qu'on va vivre, on puisse se rappeler que tu es suffisant. Et merci pour tout ce que tu nous donnes en plus, parce que c'est une grâce qui vient de toi. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.